légende. Louise Michel. La vieille Chéchette. Il y a des êtres tellement disgraciés de la nature, tellement étranges à voir ou à entendre, que leur seul aspect est un sujet de tristes études pour les uns, de folles moqueries pour les autres. Plusieurs de ces êtres-là n'ont pas toujours été ainsi. Les uns ont eu quelque accident au moral ou au physique, les autres, à force de se laisser mollement aller à la fatigue ou à la paresse, sont descendus de quelques degrés, et sur cette pente-là, il n'y a plus de raison pour qu'on s'arrête. D'autres, encore, ce qui est affreux pour l'humanité, sont devenus ainsi sous la pression des persécutions. Ce n'est pas le plus grand nombre qui ont été frappés dès leur naissance. Chéchette était une pauvre femme qu'on avait toujours vue vieille et toujours vue folle. Deux mauvaises recommandations pour les petits mauvais sujets qui sont loin de respecter l'un et l'autre. La maison de Chéchette, c'était le bois. Son magasin, c'était le bois. Le nid de son enfance, l'asile de sa vieillesse, c'était toujours le bois. D'où venait-elle? Personne n'en savait rien, ni elle non plus. La première fois qu'on l'avait vue, déjà vieille, elle sortait d'un autre bois où sa mère l'avait élevée et venait de mourir. Chéchette aimait sa mère, à sa manière. Elle s'en alla dans un autre village et s'y établit au milieu de la forêt. C'était une étrange créature, dernier rejeton sans doute de quelque race nomade. Tant que l'été durait, elle se nourrissait de fruits sauvages, et pendant l'hiver, elle avait son magasin où étaient entassés les baies rouges des sorbiers, les faines huileuses, les glands, toutes les richesses de la forêt. Parfois, les écureuils, les sangliers, les rats visitaient son magasin, car le rocher qui lui servait d'abri était couvert largement. Si à son retour de quelques promenades lointaines elle ne trouvait plus rien, Chéchette recommençait ses provisions. Quand l'accident arrivait en hiver, elle allait jusqu'au village et demandait du pain. Les uns avaient pitié de la pauvre folle et remplissaient largement le haillon qui lui servait de tablier ou lui donnait d'autres vêtements. À cela, elle souhaitait, dans sa langue, une infinité de belles choses. Les autres se moquaient d'elle. Alors Chéchette faisait entendre un grognement fort expressif. C'était sa manière, peut-être, de souhaiter le mal. La nourriture qu'on lui donnait, un peu moins grossière que la sienne, lui semblait une suite de festins tant qu'elle durait. Quelquefois, en ayant pris beaucoup pour commencer, elle s'endormait pendant longtemps, à la manière des serpents et des lézards. La forme des vêtements lui était indifférente. D'homme ou de femme, peu lui importait. Mais elle aimait beaucoup les garnitures, surtout quand il y avait des choses qui brillent. Les enfants méchants lui offraient parfois des vêtements ornés de grelots et d'autres choses ridicules. Mais s'ils avaient le malheur de rire, Chéchette leur jetait leur présent à la figure. Souvent même, elle devinait leurs mauvaises intentions sans qu'ils eussent besoin de rire, car elle avait l'instinct fort développé. Ceux qui ont vu les statuettes grimaçantes du Moyen-Âge peuvent se faire une idée de Chéchette. Elle était horriblement boiteuse et tellement borgne que son œil gauche avait presque disparu. Sa bouche, largement ouverte, laissait passer toutes les dents à la manière de l'orang-outan, ou du gorille. Ses mains, énormes, noueuses et velues, ses larges pieds, l'épaisse crinière de cheveux roux qui descendait presque jusqu'à ses sourcils, tout en elle rappelait les plus vilains gnomes, les plus hideux singes. Cet être-là s'attachait. Elle aimait comme un chien. Il est vrai qu'elle eût mordu de même. Elle ne revenait jamais de ses sympathies ni de ses antipathies. Quant aux animaux sauvages, ils n'avaient jamais attaqué Chéchette, la prenant sans doute pour un membre de leur famille. La personne à laquelle elle avait jusque-là témoigné le plus d'affection était une pauvre veuve, mère de 3 enfants. Lorsque Madeleine Germain allait ramasser du bois mort, Chéchette se trouvait toujours là pour l'aider à faire ses fagots, ou plutôt pour lui en faire d'énormes qu'elle portait jusqu'à sa maison avec une aisance incroyable. Le bois était son domaine. Elle y avait tout à fait un autre air qu'au village. Là, Chéchette semblait plutôt un être surnaturel qu'un être grotesque. Les méchants du village plaisantaient beaucoup Madeleine sur cette amitié. Ils riaient surtout lorsqu'elle laissait l'horrible vieille bercer dans ses longs bras les petits enfants qui jouaient avec elle comme un chien fidèle. Ceux-ci n'en riaient pas moins joyeusement et Madeleine s'inquiétait fort peu des mauvais plaisants. Une nuit d'été que tout le monde dormait profondément, après les fatigues d'une chaude journée employée à travailler dans les champs, on entendit retentir le seul cri qui fait lever tout le monde à la campagne.
« Au feu ! Au feu !»
Pourquoi tous les autres périls qui peuvent atteindre leurs semblables laissent-ils insensibles les habitants des campagnes ? Ce serait horrible de croire que c'est un sentiment d'égoïsme parce que, dans l'incendie, chacun craint pour sa propre demeure. Toujours est-il que, souvent, des malheureux ont crié à l'aide pendant longtemps et sont morts sans secours. Cette nuit-là, comme on criait au feu, tout le monde fut immédiatement debout. La maison de Madeleine brûlait comme un flambeau. L'un de ses enfants avait, en jouant, allumé un petit feu près d'une porte, et pendant la nuit, la pauvre cabane de bois et de chaume avait flambé. On eut beau faire la chaîne pour entretenir les pompes, le feu ne ralentit pas. Madeleine tenait dans ses bras 2 de ses enfants et luttait en désespéré contre ceux qui voulaient l'empêcher d'aller chercher le 3e au milieu des flammes. On le croyait perdu. Tout à coup, on vit quelqu'un entrer résolument au milieu des flammes. C'était Chéchette. Elle avait vu qu'un des enfants manquait. Les charpentes calcinées croulaient avec fracas. La flamme tournoyait, superbe et triomphante, dardant ses 1000 langues vers le ciel. Quelques instants s'écoulèrent. Chéchette reparut. Elle tenait l'enfant dans ses bras et le déposa, évanoui, devant sa mère. Elle était belle ainsi, la pauvre folle, dans cet acte de dévouement qui allait lui coûter la vie. Ses cheveux, son visage, tout son corps était couvert de larges brûlures. Son œil brillait d'une joie infinie. Chéchette, épuisée, tomba pour ne plus se relever. Quant à l'enfant, il revint facilement de son évanouissement, car elle l'avait couvert de ses haillons et de son corps pour le garantir. Aujourd'hui encore, Madeleine et ses enfants vont souvent porter au cimetière, sur l'herbe qui recouvre la pauvre folle, des fleurs des bois qu'elle aimait tant. Ne vous moquez jamais des fous, ni des vieillards. Les 10 sous de Marthe. Combien de choses on souhaite, combien de choses on rapporte à propos du jour de l'an. Voilà une de celles qu'on raconte. Quant à celles qu'on peut souhaiter, en voilà une aussi. Vivez et mourrez en paix avec votre conscience. La petite Marthe avait reçu un grand nombre de jouets et une quantité prodigieuse de bonbons. Comme elle n'avait que 6 ans, on n'était pas encore à midi qu'elle était déjà lasse des jouets et rassasiée de bonbons. Marthe demanda alors à sa grande tante, qui la gâtait beaucoup, de vouloir bien venir un peu se promener avec elle. La bonne vieille ne prit guère d'argent, car elle savait qu'elle ne refuserait rien à Marthe tant qu'elle en aurait, et elle ne voulait pas lui apprendre à prodiguer pour ses caprices. Le temps était beau, mais il faisait grand froid. Marthe enfonçait ses bras, tant qu'elle le pouvait, dans un manchon presque aussi gros qu'elle. Les boulevards étaient couverts de boutiques, et Marthe fit tant d'achats pour commencer que bientôt la grande tante n'eut plus qu'une pièce de 10 sous. La petite fille avait plein les bras et plein son manchon d'objets fort éclatants, coûtant très peu et ne valant pas davantage. Sachant qu'il n'y avait plus beaucoup à dépenser, elle s'avisa de penser aux petits enfants qui avaient passé leur jour de l'an sans jouets et sans bonbons. C'était fort vilain d'y avoir songé si tard, mais Marthe n'avait encore que 6 ans et au fond, elle n'avait pas mauvais cœur. Du reste, sa tante la gâtait trop et d'une manière qui n'était pas raisonnable. Au moment où elle commençait à penser aux autres assez tardivement, 2 enfants, plus petits qu'elle, frappèrent ses regards. Ils étaient si pâles et paraissaient si tristes que la bonne tante en fut frappée comme elle. Le plus âgé, vêtu fort proprement de noir, mais d'une manière trop légère pour la saison, était arrêté pour ajuster au cou de son frère, qui grelottait, quoique plus chaudement habillé, sa petite cravate de laine, et il avait, le pauvre enfant, son petit cou tout violet de froid. « Où allez-vous ainsi ?» « Mes petits amis, » leur demanda la tante. « Nous revenons, madame, » répondit l'aîné, « de chez une dame amie de maman que nous n'avons pas trouvée chez elle et nous rentrons à la maison. »« Oui, » ajouta le petit avec cette confiance naïve de l'enfance, « nous allions chez madame Paul afin qu'elle nous donne un peu d'ouvrage pour maman et avoir de quoi acheter du pain. » Et comme l'aîné le regardait de travers pour faire cesser son bavardage, la dernière petite pièce de 10 sous était dans la main du petit, et Marthe, avec sa tante, se sauvait pour que l'aîné ne leur rendît pas. Quand elles furent loin, Marthe se mit à pleurer. « Oh, ma tante, » dit-elle, « combien je regrette d'avoir acheté tant de joujoux. Nous aurions pu donner bien davantage à ces pauvres enfants. » 10 ans après, Marthe, jeune fille de 16 ans, reçue institutrice depuis quelques mois, avait fait de la vie un rude apprentissage dont elle était loin de se douter autrefois. Ses parents n'avaient pas réussi dans leur commerce, et faute d'une petite somme de 500 à 600 francs, on pouvait leur faire une mauvaise affaire. Marthe venait d'entrer comme sous-maîtresse dans un externat. Elle devait gagner 800 francs au bout de l'année, mais n'étant payée que par mois, il lui était impossible d'offrir tout de suite la somme due par son père pour des marchandises non encore vendues. S'il ne payait pas l'échéance, son billet serait protesté. S'il rendait les marchandises, ne pouvant payer, il lui fallait fermer son magasin. Une idée vint à Marthe. Elle la communiqua à la grande tante, alors âgée de 80 ans, et qui la chérissait comme par le passé. Elle l'eût même encore gâtée, si Marthe n'eût été raisonnable. « Ma tante, » dit la jeune fille, « il me semble que nous pouvons obtenir un arrangement du créancier de mon père. Gagnant 800 francs par an, je puis lui en donner 50 tous les mois, le jour où je toucherai mes appointements. Peut-être acceptera-t-il ? » La bonne vieille approuva l'idée et voulut accompagner sa petite fille. Lorsqu'elles arrivèrent chez Marcel Frère, toutes deux furent fort surprises de voir sur l'enseigne du commerçant une pièce d'argent sculptée en relief avec cette inscription « Aux 50 centimes du jour de l'an ». Elles se souvinrent des 50 centimes de Marthe et, n'osant se communiquer leurs pensées, elles entrèrent dans le magasin. L'aîné des frères Marcel était assis au bureau, faisant l'office de caissier. Le plus jeune remplissait l'emploi de garçon de magasin. Une femme, paraissant plus souffrante qu'âgée, remplaçait tantôt l'un, tantôt l'autre de ses fils. Marthe, que la grande-tante aimait à entendre parler parce qu'elle en était idolâtre, exposa le but de leur visite très simplement, mais avec une énergie qui prouvait qu'on pouvait se fier à sa parole. Marcel, l'aîné, à qui elle s'était adressée, appela sa mère et son frère. Il avait reconnu non pas Marthe, grandie énormément, mais la bonne vieille, qui depuis 10 ans avait à peine changé. « Nous avons, dit-il, l'honneur de voir celles qui sont cause de notre aisance. » Et comme sa mère et son frère s'étaient empressés d'entourer les deux arrivantes, il raconta qu'après le départ de Marthe et de la vieille dame, il les avait longtemps cherchées, car ni lui ni son frère ne demandaient l'aumône. En rentrant chez leur mère, comme ils ne pouvaient se consoler, l'amie chez laquelle ils n'avaient trouvé personne entra à son tour. Elle apportait de l'ouvrage et un peu d'argent. On put donc acheter du pain sans toucher à la petite pièce qui avait rendu le cœur si gros à l'aîné. Il fut tout de même tout à fait consolé dans sa fierté quand sa mère lui dit « Peut-être qu'à ton tour, tu pourras rendre, si tu travailles, des services aux autres sans les offenser. » Félix Marcel, ayant réfléchi là-dessus, demanda la pièce de 10 sous pour en faire l'usage qu'il voudrait, annonça qu'il ne rentrerait que le soir et prit à la main son petit frère qu'il ne quittait jamais avec un air de résolution comme s'il eût été à la conquête du monde. Les deux amis, l'ayant laissé sortir avec un sourire car c'était un brave enfant en qui on pouvait avoir confiance, s'amusèrent à le suivre de loin. Félix, tenant toujours son petit frère par la main, alla jusqu'à une marchande d'objets à 1 sou et lui demanda si elle pouvait lui en vendre pour 10 sous au prix des marchands. Car il allait rentrer dans le commerce. La marchande partit d'un interminable éclat de rire. Mais comme c'était justement à cette même place que l'enfant avait tant cherché la dame aux 10 sous, elle se douta de quelques projets courageux. Non seulement elle ajouta aux objets une forte pacotille en disant « Tu me paieras ceci quand tu auras une recette », mais elle prit les deux frères sous sa protection et leur arrangea une toute petite table devant la sienne. Tous trois étaient, le soir, tellement amis qu'ils ne pouvaient plus se séparer. Ils gagnèrent ce jour-là le triple de leur mise. La bonne marchande n'avait pas d'enfants. Quand l'époque du jour de l'an fut passée, elle les prit pour l'aider dans sa petite boutique sous prétexte qu'il lui serait fort utile, car Félix n'y aurait pas consenti sans cela. Le commerce avait prospéré. En 10 ans, la boutique de la mère Hortense était devenue un gros magasin où vivaient les deux veuves et les deux frères. Tout cela grâce aux 10 sous de Marthe. Félix en était là de son récit quand rentra la mère Hortense, qui revenait tout à propos de quelques courses. Je vous laisse à penser, chers enfants, quel accueil on fit à Marthe et à la grande-tante. Félix exigea que les 600 francs ne lui fussent remis qu'au bout de 4 ans. À cette époque-là, le père de Marthe ayant fait de meilleures affaires, le magasin des frères Marcel ayant continué à prospérer, tout le monde fut d'avis que pour la fête de la bonne grande-tante, on prêta chacun 100 francs à 6 orphelins dont les uns avaient à soutenir leur mère, les autres leurs petits frères. La bonne vieille, ce jour-là, pleura de joie. Et cette action porta bonheur à tous, car elle vécut longtemps encore, et les six commerces prospérèrent. L'héritage du grand-père Blaise. Le père Blaise était le plus riche fermier de la contrée. Outre les champs qu'il cultivait pour d'autres, à moitié ou autrement, il avait en propre un bien considérable. Sa fille avait été élevée dans la meilleure pension de la ville, et son fils venait de sortir du collège avec une charge de prix à faire envie à ses camarades. Margot, sa ménagère, était une personne fort avenante, ne se mettant jamais en colère quand il tombait une averse sur le grain coupé. Les domestiques se plaisaient à la ferme. Pourtant, le père Blaise était triste, si triste qu'on craignait qu'il n'en mourût. D'autant plus que son père et son grand-père étaient, eux aussi, mort de tristesse sans qu'on pût en savoir la cause. Souvent, les deux enfants, Rose et André, en causaient avec leur mère. « Toi qui passes pour si savant, disait Margot à son fils, tâche donc de guérir ton père de sa tristesse. » André faisait bien tout ce qu'il pouvait, mais il n'avançait guère. Il aurait raconté pendant 10 ans tous ses meilleurs tours de collège, que Blaise se fût contenté de l'écouter gravement, car il comptait bien, mais sans pour cela sourire aucunement. En désespoir de cause, Rose alla, sans rien dire, trouver la vieille Jeannette. C'était une paysanne qui avait près de 100 ans. Par conséquent, ayant bien des fois vu naître et mourir père, enfant et petits-enfants, connaissant l'histoire de chaque famille, elle donnait quelquefois d'excellents conseils, ce qui la faisait passer pour très habile. Rose alla donc consulter Jeannette pour la tristesse de son père. « Dame, ma fille, dit la vieille, je savons ben pourquoi, mais il ne serait pas prudent de te le dire. » Rose insista tellement. Elle promit si bien le secret. Et puis, au fond, la vieille Jeannette désirait tant raconter à la fillette tout ce qu'elle savait et chercher ensemble les moyens de guérir son père, qu'elle consentit. « Mon grand-père m'a raconté, dit-elle, qu'il fut un temps où dans ce village la disette fut telle que ceux qui avaient un peu de terre donnaient, quand ils avaient des enfants, le champ entier pour un sac de blé, ou même d'orge, ou de sarrasin. » Rose frissonnait. Le grand-père de Jeannette, qui avait 100 ans, cela devait être bien vieux. Mais elle ne savait pas pourquoi ce commencement d'histoire lui faisait peur. « Alors, continua la vieille, l'arrière-grand-père de votre père, qui s'appelait François Blaise, commença à acheter beaucoup de petits champs à ceux qui ne voulaient pas laisser mourir de faim leurs enfants ou leurs vieux parents. » Rose fondait en larmes. « Dame, ma fille, dit la vieille, t'as voulu savoir ? » ?»« Oui, ma bonne Jeannette, dit la jeune fille, il faut que je sache pour que mon père guérisse. » Et séchant ses larmes, elle écouta avec fermeté. Jeannette continua. « François Blaise, déjà riche, se maria richement. Mais il y avait dans le village des familles ruinées. Il prit la chose à cœur et mourut. Son fils, à qui il avait sans doute recommandé quelque chose en mourant, mais qui n'avait point osé le faire, prit tristesse au même âge. Il mourut. Ton père est le cinquième. Rose avait trouvé un expédient, mais il eût fallu dire à son père qu'elle connaissait le secret. « Que feriez-vous à ma place, Jeannette ? » demanda-t-elle. « Dame, mamselle, c'est délicat, » dit la vieille. « Mais enfin, » disait la pauvre jeune fille, en joignant les mains, « comment rendre ces maudits chants sans faire honte à notre père ?» La vieille laissa échapper étourdiment ces mots. « Il y a longtemps que j'y songions. » Nous deux Jean-Claude, car c'est grand dommage de laisser mourir un pauvre brave homme qui sera tant pleuré. « Mon père n'a-t-il jamais essayé, dit Rose, de rendre quelque chose ?»«
Dame, mamselle, depuis ses arrière-grands-pères, ils ont toujours soutenu, en dessous, les familles. Mais ça ne leur satisfaisait pas encore la conscience, et votre père, c'est de même. »
Toutes deux se prirent à pleurer, tant la confiance et la douleur de Rose avaient ému la bonne femme. Elle arriva alors à une seconde étourderie, elle qui pourtant avait si forte tête, comme on disait dans le pays.
« Je vais rompre avec Jean-Claude. »
À peine ces paroles étaient-elles dites, que Rose s'écriait.
« Je comprends, Jeannette, vous et Jean-Claude descendez des familles qui ont fait ces tristes marchés. »
La vieille ne répondit pas. Rose continua.
« Ne me refusez pas ce que je vais vous demander. Vous et Jean-Claude, vous êtes bien vieux, quoique ce soit le plus jeune de vos neveux. Vous allez venir demeurer parmi nous. Mon père souffrira moins et vous serez bien choyés, bien heureux. »
En parlant ainsi, elle rougissait, la pauvre fille. Car au fond, les terres, si étrangement achetées par son aïeul, étaient beaucoup à Jeannette. Celle-ci eut pitié de l'enfant.
« Ben oui, » dit-elle, « puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. »
Rose ne dormit pas de la nuit. C'était vraiment une heureuse inspiration que celle qui l'avait conduite chez Jeannette. Le lendemain, Rose conduisit chez son père la centenaire et son neveu Jean-Claude, le vieux berger.
« Père, dit Rose, voici une société qui va t'égayer. Maintenant ces bons vieillards demeureront avec nous. »
Blaise rougit et pâlit, et puis son cœur creva, comme on dit dans le village. Et il raconta, en fondant en larmes, comment de père en fils, recevant chacun le fatal récit et tous retenus par une mauvaise honte, il n'avait qu'aidé les descendants des malheureux, avec lesquels son aïeul avait fait ses fatales marchés et les terribles souffrances que chacun d'eux avait endurées. Jean-Claude pleurait d'attendrissement.
« Qu'à ça ne tienne, père Blaise, dit Jeannette. Il n'y a plus que nous deux, Jean-Claude et moi de ces familles-là. Et je veux non demeurer avec vous pour toujours, à preuve que je baillons en héritage à André et à Rose tout ce que vous croyez qu'est à nous, quoique vous en ayez donné petit à petit la valeur. Mais je sais pourquoi ça ne vous contentait pas. »
Il fut fait, comme le disait Jeannette. Voilà pourquoi Blaise ne mourut pas de tristesse comme son père et ses grands-pères. Et voilà pourquoi Jeannette, vêtue de ses plus brillants atours, c'est-à-dire d'une coiffe comme on en portait au temps de sa jeunesse et d'un beau corsage en pointe tout rouge sur une jupe rayée, assistait au mariage de Rose et d'André avec les enfants de Nicolas Garoui, le Breton, qui, comme eux, avait bon cœur et avait été bien éduqué.